Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Nelly.
Bonjour.
Bonjour Mathias. Ce matin, j'ai vécu une véritable scène de film, ici même. On était en train de chanter « Combien Dieu est grand » et c'est vraiment un très beau chant et je sentais qu'il y avait une exaltation dans l'assemblée et on chantait « Combien Dieu est grand » et c'est une chanson de film presque, hein, de dernière scène où il se passe quelque chose et à ce moment-là, c'est le refrain, on chante « Combien Dieu est grand » et puis il y a Jacques Rémy qui entonne tout seul un refrain, je me dis « Oh, c'est encore plus beau et tout, magnifique !» Puis à ce moment-là, je sens une petite pression sur ma jambe. Théila qui me regarde et qui regarde à côté de moi et elle voit, il n'y a rien, je fais, c'est devant. Et elle regarde, elle s'avance et elle voit Gabriel. Elles se prennent dans les bras, magnifique. C'était des retrouvailles après 6 semaines. C'était, et avec la musique « Combien Dieu est grand », Jacques Rémy qui chante le refrain. Une vraie scène de film, on voit vraiment les retrouvailles. Et c'était vraiment quelque chose de réjouissant. Et ce matin, je voudrais continuer à parler de choses réjouissantes avec vous, puisque je voudrais vous parler du pire jour de ma vie. Alors ne vous inquiétez pas si j'ai l'air de me contredire, c'est le cas au début, mais ce ne sera pas le cas à la fin. Alors c'était le jour de mon anniversaire, le 3 novembre 2009, et c'était en fin de journée, et j'attends évidemment les textos, joyeux anniversaire. Et c'est ma mère qui m'appelle, et donc comme d'habitude, je m'attends à ce qu'elle me dise « Sois béni mon fils, que le Seigneur te garde », une longue prière exaltée. Et elle m'annonce que ma tante est morte. Et c'est vraiment une nouvelle qui m'a choqué, qui m'a vraiment choqué. C'était une tante qui s'est beaucoup occupée de nous quand on était petits. Elle a vécu à la maison pendant des années et elle n'était pas notre nounou, mais elle était vraiment comme une deuxième mère pour nous. Et quand elle est rentrée des États-Unis, elle est morte vraiment très rapidement, en moins d'un an. Et c'est vraiment une nouvelle qui m'a choqué. Et c'était le pire jour de ma vie. Et hélas, en plus, c'était pas le seul choc qu'on avait reçu cette année, puisque c'est la même année que Élise était morte quelques semaines plus tôt. Eh oui, on a tous un moment qui est difficile, qui est très difficile comme ça. Et j'ai trouvé que c'était allé vraiment trop vite, vraiment trop vite. Et quand c'est arrivé, j'étais pas prêt. Et je pense pas que on puisse être prêt un jour. Pourtant, elle avait donné sa vie à Dieu. Et donc, a priori, j'aurais dû me réjouir de ce moment. Mais je n'étais simplement pas prêt. Et Céline, quelques temps plus tard, m'a avoué qu'elle ne m'avait jamais vu comme ça. Jamais. C'était le pire jour de ma vie. Et pourtant, la mort, pour nous chrétiens, c'est le début de la félicité. Car c'est le moment le plus proche du retour de Christ, le moment où nous retrouverons notre Père. Et j'ai également cette image d'un repas, ce festin qui serait préparé pour nous, qui serait préparé pour vous, pour moi, parmi les élus. Et j'ai ces versets qui me paraissent être des illustrations parfaites de cette idée. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et pourtant, à ce moment-là, je peux dire que j'étais en morceaux. Et pour rajouter sur ce thème un peu sombre, je vous l'avoue, j'ai un passage qui fait un peu froid dans le dos. Il s'agit d'un passage de ce livre, Le Voyage du Pèlerin. Alors, un bref résumé de ce livre, Le Voyage du Pèlerin, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Chrétien et qui un jour va se réveiller avec un fardeau sur le dos. Et ce fardeau, c'est la représentation de ses péchés. Et C.S. Lewis, l'auteur, le nomme chrétien au moment, ou vraiment à ce moment où il va acquérir cette conviction de péché. Ce moment où il va se sentir coupable, où il va sentir qu'il a besoin de pardon dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à la recherche de solutions pour se décharger de ce poids, le poids de ses péchés. Et donc on arrive à cet épisode où Chrétien rencontre un homme dans une chambre, un homme tout tremblant, apeuré, vraiment apeuré, au moment de son réveil, et lui raconte ce cauchemar. « J'ai vu cette nuit en songe, pendant mon sommeil, le ciel fort obscur, sillonné par des éclairs et retentissant de tonnerres épouvantables. Ce qui m'a causé d'abord une angoisse et une consternation horribles. Ensuite, j'ai vu dans mon songe des nuées qui paraissaient d'une forme tout extraordinaire, et j'ai entendu un grand bruit de trompette. Alors un homme, tout rayonnant de gloire, apparut dans l'air. » Et s'est assis sur des nues, environné de plusieurs milliers d'habitants des cieux. Cependant, tout était en feu. Les cieux mêmes étaient embrasés. Et à cet instant, j'ai entendu une voix qui criait « Mort, levez-vous et venez en jugement !» Puis j'ai vu les rochers se fendre, les sépulcres s'ouvrir et les morts en sortir. Quelques-uns d'entre eux étaient remplis de joie et levaient la tête. Mais les autres tâchaient de se cacher sous les montagnes. L'homme qui était assis sur les nues ouvrit un livre et commanda que tout le monde eût à comparaître devant lui. Toutefois, à cause d'une flamme dévorante qui marchait devant lui, il y avait une distance convenable entre les autres et lui, comme entre un juge et des prisonniers. J'entendis aussi crier à ceux qui servaient celui qui était assis sur des nues, et sur le champ, plusieurs furent enlevés et portés dans les nues. Mais je fus laissé en arrière. Je cherchais aussi à me cacher, mais tous mes efforts furent inutiles. Car celui qui était assis sur la nue avait toujours les yeux fixés sur moi. Mes péchés se présentèrent aussi devant moi. Ma conscience m'accusait de toutes parts. Et sur cela, je me suis réveillé. Je croyais que le jour du jugement était arrivé et je n'étais pas prêt pour comparaître. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est que les anges assemblèrent un grand nombre de personnes et qu'ils me laissèrent en arrière. L'enfer aussi ouvrit sa gueule précisément à l'endroit où j'étais. Avec tout cela, ma conscience me condamnait et je remarquais que le juge avait les yeux toujours attachés sur moi. De sorte que je pouvais découvrir sur son visage sa colère enflammée sur moi. Alors voilà une vision du jugement qui est effroyable, qui fait peur. Ce dernier jour où nous devrons comparaître devant Dieu. Dans mon métier, je suis formé à toujours trouver un aspect positif à toutes les situations, une porte de sortie. À traiter les objections. Il n'y a aucune objection qui ne puisse être traitée. Et si cette objection, elle persiste, c'est qu'on appelle un faux-né, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Et je dois aller en avant. Et si un produit que je propose n'est pas tout à fait ce que mon client veut, mon travail, c'est de le persuader que c'est ce qu'il lui faut. J'exagère un peu parce que je ne suis pas aussi bon que ça. Mais j'ai toujours quelque chose à redire. Mais là, dans cette image, il n'y a pas de côté positif. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'objection à traiter. Il n'y a aucune échappatoire. Cet été, en vacances avec Jean-Simon et Amy, on partageait des exhortations et je suis revenu sur l'exhortation que nous avait fait Vance sur le chant « Tel que je suis ». Et les premières paroles de ce chant font « Tel que je suis sans rien à moi ». Mais la traduction en anglais, en fait, le poème de départ dit « Tel que je suis, sans recours ». Et c'est sans recours que cet homme se retrouve devant Dieu. Dans cette histoire, cet homme qui se dit chrétien ose à peine regarder Dieu. Il se cache même en sa présence, comme Adam et Ève. Et être laissé en arrière, le regard de Dieu qui juge, voilà qui a de quoi nous effrayer. Et c'est là que prend tout le sens de Jésus qui intercède pour ceux qui l'ont reconnu durant leur vie sur terre. Et nous ne sommes plus sans recours, puisque nous avons Jésus. Au Romains 8 et en Matthieu 10, nous lisons « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le voilà notre recours. Jésus intercède en notre faveur devant Dieu, devant le Père. Heureusement, car imaginez-vous, tous nos péchés de notre vie mis bout à bout. Ce serait absolument terrible. Notre conscience ne s'en remettrait pas. Jésus intercède auprès de notre Père et il a pris sur lui toutes nos fautes. Nous le savons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourtant, comme cet homme dans la vision, la mort a un côté mystérieux et très effrayant pour celui qui n'y est pas préparé. Et même nous qui connaissons l'issue, nous qui avons cette espérance, parfois nous ne sommes pas préparés. C'est très difficile d'être prêt et on lit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 que le dernier jour viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pas pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et un peu plus loin, au verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et c'est ce que j'espère que nous sommes en train de faire ce matin. Nous devons donc prier et veiller et ne pas nous endormir spirituellement pour ne pas être surpris au dernier jour. Un des sujets principaux des hommes politiques ces derniers temps, c'est la sécurité et la pacification, comme on dit. On peut dire que les résultats pour le moment ne sont pas probants. Et je me rappelle même que, et on nous apprenait même à l'école, qu'avec la chute du mur de Berlin, on nous disait que c'était la fin de l'histoire. Plus rien ne devait se passer. C'était la fin des conflits, la fin des grands blocs. Et encore une fois, c'est mal vu. Plus que jamais, nous devons nous pénétrer de l'urgence de la situation. Si nous perdons de vue l'urgence de la situation actuelle, c'est ce moment d'endormissement spirituel, nous pourrions ne pas être prêts à repousser les attaques que nous subissons et être pris au dépourvu par le jour de Dieu. Rien d'étonnant donc à ce que l'apôtre Paul nous exhorte à garder constamment à l'esprit la présence du jour de Dieu et à accomplir des actes marqués par l'attachement à Dieu. L'espoir d'être secouru au dernier jour donne la force d'endurer des situations les plus désespérées. La cuirasse, c'est une partie de l'armure du guerrier qui le protège à la poitrine. Elle peut être constituée d'écailles de métal, de mailles ou de plaques métalliques. Pareillement, la cuirasse de la foi nous protège spirituellement. Tout comme le casque protège la tête du guerrier, de même l'espérance du salut préserve nos facultés mentales et nous permet de rester intègres et de garder notre objectif en ligne de mire, la cité céleste. Il y a longtemps maintenant, je chantais dans la chorale Agapella, et on avait cette chanson « I'm gonna view that holy city, I'm gonna feast on milk and honey ». Traduction, je vais voir la cité céleste, et je vais me régaler avec du lait et du miel. Dieu nous invite à sa table. Et c'est le sens de la parabole en Luc chapitre 14. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. » Alors du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » J'imagine, et on a souvent cette image au moment des agapes, les tables remplies de ce qui a été préparé. Des rires et des bons moments partagés ensemble. Et pour les plus gourmands d'entre nous, du rab qui reste pour le deuxième tour. Ce moment de fraternité, c'est un bon moment, et pourtant nous savons que c'est sans commune mesure par rapport à ce que nous vivrons avec notre Père dans les cieux. Et pourtant, alors que les hommes sont appelés à partager ce festin avec leur Créateur, trop, encore beaucoup trop, d'entre eux ignorent même ce message. Et je dis bien « ils » à dessein, les gens du monde, trouvent des excuses. Comme on le lit dans le passage, le premier a un champ à aller voir, un attachement à la terre, au bien terrestre, du mal à se détacher du terre à terre et à s'occuper des choses plus précieuses, la vie spirituelle. On a cet enseignement en Matthieu chapitre 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le deuxième a des bœufs à aller essayer. Hormis le fait que cette excuse soit très légère, c'est l'attachement peut-être à sa vie professionnelle qui prime pour celui-ci. Et le dernier utilise son récent mariage comme excuse, alors qu'au contraire, il aurait pu emmener sa femme avec lui. Le maître va alors se mettre en colère et va inviter tous ceux du dehors, dans le besoin, pour partager ce festin. En Matthieu chapitre 8, Jésus déclare « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Qui parmi vous ce matin a envie de manger à la table d'Abraham, Isaac et Jacob ?» Richard, ça j'en suis sûr. Mais pour vous, le reste. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et pourtant, si souvent il nous arrive de perdre cet objectif, de vue notre objectif. Dieu nous invite à sa table. Il désire ardemment que nous répondions à son appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous qui avons accepté Christ dans notre vie, allons-nous vraiment nous asseoir à cette table? Ou alors, allons-nous poser un lapin? Parce que c'est un repas gratuit, alors si on y va ou si on n'y va pas, c'est peu importe. Ne faisons pas partie de ceux qui posent un lapin, qui se trouvent des excuses, des mauvaises excuses, mais répondons à son appel. Quand il donne cette parabole, Jésus sait que tous ces gens religieux à qui il parle n'acceptent pas cette doctrine, parce qu'ils sont trop bien installés dans leur vie terrestre. Ils croient pourtant qu'ils seront tout naturellement les premiers admis au grand festin du royaume de Dieu, lorsqu'il reviendra. Mais Jésus, lui, invite un royaume de Dieu spirituellement présent dans le cœur. Optique totalement différente de celle des pharisiens. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper des regards, dit Jésus. On ne dira point « il est ici ou il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et comme ils refusent cette invitation, ils s'excluent eux-mêmes du plan de Dieu. Les places seront donc données à ceux du dehors, qui acceptent avec joie. Et vous, et nous, acceptons-nous cette invitation ? Et si nous disons que nous acceptons cette invitation, quelle forme cela a-t-il dans notre vie, dans votre vie ? Jésus nous invite, encore je me répète, mais il nous invite à accepter cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors préparons-nous au jour du Seigneur. Vivons chaque jour comme si Jésus revenait demain. Et ne soyons pas dans la crainte, comme cet homme qui a rencontré ce personnage chrétien. Soyons pleins de confiance, car si Jésus intercède en notre faveur. Veillons et prions, parce que Jésus nous a libérés du poids de nos péchés, et plus rien ne pourra nous accuser avec lui à nos côtés. Alors acceptons de nous rendre à ce banquet que le Seigneur a dressé et nous invite à partager avec lui. Amen.